Bonjour à tous et bienvenue dans ce 134e épisode de Be My Guest et la toute première de 2022. Alors avant toute chose, je voudrais vous présenter à tous mes plus sincères souhaits pour cette nouvelle année, donc du bonheur, de la santé surtout et de la réussite dans vos projets. Alors Be My Guest, c'est l'émission live dédiée à l'écosystème automobile et aux nouvelles mobilités. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'avenir de l'automobile comme vecteur d'inclusion. Et je suis heureuse d'accueillir pour cette émission Francis Bartholomé, président du CNPA. Pour répondre aux normes climatiques, l'automobile a poursuivi en 2021 sa rapide mutation qui s'est accompagnée d'une hausse des prix moyens de près de 30% et d'un repositionnement haut de gamme de la plupart des constructeurs automobiles. Ce phénomène est-il lié à la pénurie des semi-conducteurs ou ce modèle économique est-il appelé à perdurer, ce qui signifierait à court terme la disparition de la voiture populaire au profit de l'automobile produit de luxe. Pour dresser le bilan de l'an passé pour la filière et analyser la situation, je suis donc heureuse d'accueillir Francis Bartholomé, président du CNPA. Bonjour Francis.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Francis, comme je viens de l'évoquer, vous êtes président du CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile, qui, rappelons-le, défend les intérêts des entreprises de la distribution et des services de l'automobile. Vous êtes également président du groupe automobile Saint-Christophe dans la région Grand Est, qui distribue les marques Ford, Jaguar, Land Rover, Kia et Volvo. Donc on peut dire que l'automobile, vous connaissez parfaitement. Vous êtes bien placé donc pour nous faire un état des lieux de l'automobile en France aujourd'hui, en janvier 2022.
Alors, oui, bien sûr. Merci d'ailleurs de cette présentation et je dirais tout de suite que en ce qui concerne le groupe Saint-Christophe, la direction opérationnelle a été confiée maintenant à mon gendre et à ma famille. J'ai moi-même fait un choix différent qui est le CNPA parce que je vais se retrouver un peu cette envie de fédérer les métiers, de fédérer un peu toute cette structure de l'aval de la filière automobile qui m'a passionné et qui me passionne encore. Donc voilà, mais effectivement, je suis bien sûr l'activité des ventes des voitures neuves. Vous imaginez bien qu'en tant que président du groupe Saint-Christophe, j'ai aussi à y voir. Et je fais un certain nombre d'analyses aujourd'hui qui vont effectivement dans le sens d'essayer de répondre aux deux questions que vous avez posées. Voilà.
Alors, le marché s'est-il redressé? On a eu une année catastrophique en 2020 liée à la situation sanitaire. Est-ce que la situation s'est améliorée en 2021 ou alors la crise a-t-elle perduré?
Alors, malheureusement, la crise a perduré puisque le marché de 2021 à quelques unités près, le même que le marché de 2020, donc avec des chutes extrêmement importantes par rapport au marché de 2019, 25%, et puis surtout qui a inscrit pendant 2 ans un marché extrêmement bas qu'on n'avait pas connu depuis les années 1975. Nous étions habitués à des marchés qui étaient de l'ordre de 2 millions de véhicules, voire 2 millions 3, 2 millions 4 pour les plus grosses années, mais effectivement, nous n'avons pas connu cela. Signalons quand même que pour 2021, le début de l'année avait compensé un petit peu, on voyait une année un petit peu différente par rapport à 2020, et c'est effectivement bien sûr la crise des semi-conducteurs qui est venue apporter cet élément de non-livraison, de non-activité qui a fait en sorte que le marché a beaucoup baissé. Il faut préciser quand même que toutes les marques automobiles n'ont pas été tenues à la même enseigne. Les chutes ont été beaucoup plus fortes pour des constructeurs généralistes tels que Ford, Fiat, Opel, les généralistes français. Et ces chutes liées aux semi-conducteurs ont épargné, si je peux utiliser ce terme, les Coréens. Pourquoi ? Parce qu'en Corée, on a Samsung, et je pense qu'il y a des investissements croisés sur les semi-conducteurs qui existent. Je pense que les amis du Japon ont été aussi épargnés, Toyota ayant, à mon avis, suffisamment anticipé ce genre de crise, ce qui fait qu'en définitive, c'est très différent des uns ou des autres, mais le résultat est là, vous l'avez signalé, le marché est extrêmement bas et extrêmement compliqué.
Oui, sans parler des résultats insolents de Tesla, qui a battu tous les records avec des hausses de 80% des ventes, hein. Tout modèle confondu. Hein.
Bien sûr, donc les hausses, si vous voulez, sont importantes, ça c'est très net. Ceci étant, le pourcentage de Tesla est d'autant plus important que eux n'ont pas été perturbés par les semi-conducteurs, bien entendu, et qu'inévitablement, comme le marché était très baissier, les pourcentages de Tesla, finalement, arithmétiquement, augmentent. Mais il faut souligner quand même l'excellente performance de ce type de véhicule, c'est très clair.
Alors, pour l'année 2022, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà vous prononcer? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une reprise ou alors qu'on va rester dans cette même configuration avec des ventes à la baisse?
Vous imaginez bien que c'est des sujets qui nous occupent. Les constructeurs répondent aujourd'hui d'une manière un peu plus précise qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois, il faut reconnaître. Mais la tendance, à mon avis général, c'est un retour à une situation normale, pas avant le deuxième semestre 2022, voire pour certains constructeurs, pas avant 2023. Donc, en fonction encore un peu des incertitudes, on peut s'attendre à une année encore compliquée. Bien que pour beaucoup d'entre nous, et beaucoup, il y a des prises de commandes qui ont été faites d'une manière importante sous le dernier semestre 2021, ces prises de commandes ont été enregistrées pour des livraisons 2022. Donc, on va avoir effectivement un certain nombre de livraisons qui vont venir, en deux mots, compenser un peu ce creux final. Mais ces livraisons-là tiennent compte quand même de la bonne volonté des gens qui ont signé un contrat, qui ont signé un achat et qui, globalement, n'attendront pas d'une manière indéfinitive le fait de pouvoir avoir leur véhicule. Donc, on aurait besoin, à votre question, on aurait besoin d'avoir des précisions sur le timing des livraisons, sur la stratégie de nos amis constructeurs, pour qu'effectivement, on puisse répondre, nous, un peu de manière plus précise, à l'ensemble de nos clients automobilistes. Ça, c'est un vœu pieux que j'aimais, c'est travailler, si possible, le plus ensemble dans les échanges, dans les informations, pour être crédible avec le client, parce que c'est quand même le client final qu'il faut savoir respecter. Et à un moment donné, il faut quand même avoir des précisions qui correspondent, si possible, à une réalité.
Alors, si on assiste à une baisse des ventes qui est liée effectivement au problème des semi-conducteurs, est-ce qu'il y a également en parallèle une désaffection des Français pour l'automobile? On est quand même dans un contexte écologique, il y a beaucoup de lobbying, de l'autophobie également. Est-ce que vous pensez que les Français se détournent de l'automobile?
Là, on est plutôt dans la question des prises de commandes. Hein. C'est ça, la vraie question. Et c'est vrai qu'on s'apercevait depuis octobre, novembre, décembre que les concessions n'étaient pas envahies par les consommateurs ni par les acheteurs. Hein. Donc, inévitablement, il y a quand même quelques raisons qui l'expliquent. La première, c'est celle qu'on vient déjà de définir. Quand vous achetez un produit, qui est souvent un produit pour lequel on veut attendre, dont on a espéré pouvoir faire l'acquisition et qu'on n'a pas de date, de délai de livraison, ou qu'on ne sent pas du tout la capacité de déterminer au moins une période à laquelle on pourra jouir de ce produit qu'on a acheté, c'est souvent un facteur qui fait qu'on doit effectivement, on peut se dire qu'on va attendre un petit peu. Le deuxième facteur, c'est quand même un point important, c'est l'augmentation du prix. L'augmentation du prix fait qu'un certain nombre d'acheteurs potentiels se sont retrouvés face à des augmentations des produits des voitures qui, globalement, est constatée pratiquement partout. Alors, l'explication, à mon avis, c'est bien sûr peut-être le renchérissement des coûts des matières premières, mais je pense qu'il y a une raison peut-être un peu plus réelle à ce dossier, c'est que les constructeurs, et notamment ceux qui sont les plus concernés par les semi-conducteurs, ont dû faire des choix économiques, sur lesquels d'ailleurs on peut très bien le comprendre, ces choix économiques étant le fait de dire, étant limité dans le quantitatif de véhicules, de faire un choix de véhicules plus qualitatifs, ayant l'ensemble des si vous voulez, des fonctionnements avec les options et autres qui renchérissent le prix, et puis effectivement traduire des produits de base, si vous voulez, les productions de base, qui sont généralement les moins chères, n'ont pas été ou très peu fabriquées.
Alors, Francis, est-ce que c'est quand même pas un phénomène, cette augmentation de prix, qui va perdurer dans la mesure où il y a de plus en plus de composants électroniques dans une voiture, plus en plus de digitalisation? Les voitures ont pris en moyenne 9 000 euros. On est passé pour le prix moyen d'une voiture de 15 000 euros à 24 000 euros avec l'électrification. Est-ce que, c'est pas un phénomène qui va perdurer parce que on s'oriente de plus en plus vers des voitures qui ont des logiciels embarqués, beaucoup d'électronique, ça coûte cher. Donc, est-ce que les prix vont baisser?
Effectivement, l'idée que j'ai développée peu de temps avant, c'est que on travaillait quand même sur des voitures un peu de haut de gamme et de haute finition. C'est-à-dire que ça permettait à nos amis constructeurs, du point de vue économique, tout en diminuant le quantitatif proposé, c'était évidemment de compenser sur le compte de résultat par une augmentation des tarifs ou d'utilisation de produits à valeur ajoutée plus importante. Donc, okay. Je pense à votre question, par contre, que ce mouvement est un mouvement qui ne perdurera pas. On aura de nouveau une stabilité, voire une concurrence qui de nouveau fera en sorte que notamment pour les plus petites voitures, parce qu'il faudra bien penser que la voiture neuve n'intéressera pas que les gens effectivement qui peuvent avoir demain 30 ou 40 000 euros à dépenser dans une voiture. Il faudra bien quand même revenir à des sujets où le quantitatif reprimera. Inévitablement, les chaînes retourneront. Inévitablement, il y aura des événements concurrentiels qui le feront. Je pense, moi, que les prix se stabiliseront et que de nouveau, un certain nombre de modèles plus à même à répondre aux besoins de mobilité des Français, ceux qui ont besoin de leur voiture et qui vont quand même s'approcher des véhicules neufs, pourront, à mon avis, retrouver ce genre de situation. Je pense que la situation d'aujourd'hui, elle est conjoncturelle par rapport à une situation claire, nette, qui n'arrange pas du tout, par contre, le marché. Mais quand vous n'avez pas de disponibilité, on peut comprendre qu'à un moment donné, on aille vers cette situation qui permet effectivement de vendre des voitures au plus cher. Les conséquences sont quand même extrêmement importantes aujourd'hui. Vous savez que j'ai moi-même regardé un peu ce qui peut se passer dans le groupe Saint-Christophe dont vous parliez tout à l'heure. Je me suis amusé à regarder quelle était la moyenne d'âge des gens qui achètent des voitures neuves, on va dire de prix quantitativement plus élevé à partir de 30 voire 40 000 euros. Et bien, la moyenne d'âge est en train de monter encore une nouvelle fois. On a dépassé le cap des 62 ans de l'acheteur de la voiture neuve. Donc, on est en train de montrer quand même qu'on voit des catégories différentes d'acheteurs potentiellement de voitures qui durablement a l'air de s'installer. C'est assez un problème. Ça veut dire aussi, de manière générale, que cette nouvelle voiture qui est électrifiée, qui sera potentiellement répondra aux critères environnementaux, ne pourrait être dessinée en termes que voiture neuve, que vers des gens il y a les possibilités de l'acheter. C'est un peu gênant du point de vue social et sociétal, on est bien d'accord.
Alors justement, est-ce qu'on n'est pas en train d'exclure de la mobilité une frange de la population qui est soit à des moyens insuffisants pour s'acheter une nouvelle voiture, soit les jeunes?
Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que déjà avant cette augmentation, si vous voulez, le marché qui était alimenté, qui était de la VO récent, qui était quasi des voitures neuves, si vous voulez, qui était alimenté par un quantitatif de production de voitures importantes, qui se retrouvait très facilement dans des métiers de la location courte durée, voire de la location longue durée, permettait de fournir sur des voitures très très récentes, des véhicules qui avaient été amortis de 30 ou 40% de leur prix. Ce phénomène-là, à mon avis, quand on repartira dans le quantitatif, pour la production là, on retrouvera ce type de phénomène. Il n'y a pas de raison, à un moment donné, que cette économie de marché qui est concurrentielle ne redonne pas les mêmes effets. Alors, bien sûr qu'on aura peut-être franchi une étape et un palier en termes de prix. Il y a le prix de la location des véhicules, à mon avis, va monter de la même façon que le prix du neuf et ne rebaissera pas de cette façon-là. Il y aura effectivement un vrai sujet de lutte de cette mise à disposition des gens qui ont vraiment besoin de mobilité et de mobilité abordable à des prix qui peuvent se faire. On va vers un problème qui ne se réglera, mais pas dans l'immédiateté, ça c'est évident.
Oui, d'ailleurs, Carlos Tavares plaide pour une mobilité accessible à tous, Parce qu'effectivement, on risque de voir s'instaurer une fracture sociale. Hein.
J'ai eu l'occasion, moi, de participer à certaines réunions dans lesquelles Carlos Tavares intervenait. Et il avait parfaitement raison de mettre en place, de mettre en garde, je dirais, nos gouvernants, nos décideurs, quand l'électrification à tout va est très rapide, allait avoir des conséquences très, 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 très néfastes. Ça a été souligné par tout le monde. On savait très bien qu'à un moment donné, ça allait créer une forme d'impossibilité pour un certain nombre de nos Français acheteurs automobiles de pouvoir accéder à l'électromobilité. Donc, ce qui veut dire que si d'un côté, ils ne peuvent pas y accéder, que de l'autre côté, leurs anciennes voitures, on commence à leur dire, vous ne pourrez plus trop les utiliser dans certaines zones, c'est vraiment un problème social et sociétal qui peut, et d'ailleurs vous remarquerez que le CNPA l'écrit, le dit, attention, oui à l'électromobilité, oui demain à des voitures décarbonées, sans problème, mais par raison et par respect de notre économie et de nos usines, et par respect de nos conducteurs, de nos automobilistes et des gens qui ont besoin de voitures, prenons le temps nécessaire pour être des gens raisonnables, pour pouvoir donner des objectifs atteignables et qui respectent effectivement à la fois la mobilité, qui respectent l'environnement, inévitablement, mais qui respectent aussi le social. La voiture est un élément de mobilité colossal. Il y aura toujours autant de Français qui auront besoin de voitures pour aller travailler, pour aller en vacances.
74%, excusez-moi, des Français utilisent leur voiture pour aller travailler quotidiennement. Bien sûr. C'est quand même énorme.
Bien sûr, et ça continuera dans ce sens, si vous voulez. Donc là, ce que je crains un petit peu, si vous voulez, c'est, alors évidemment, cette crise des semi-conducteurs est venue amplifier d'une manière extrêmement forte ce phénomène qui était là. Mais à mon avis, l'amplifier, on n'aura pas de retour vraiment en arrière dans l'immédiateté, alors que la voiture restera. Je pense que les pouvoirs publics doivent aujourd'hui réfléchir, donner peut-être un peu de temps de recul, notamment sur le 2035 avec le tout électrique, sur les normes café, sur l'ensemble des sujets qui sont actuellement et qui vont être en réflexion à Bruxelles. On demande, le CNPA demande, on n'est pas les seuls, mais on demande est-ce qu'il y ait un peu de temps de réflexion, de temps qui soit mis à profit pour pouvoir trouver des solutions avec la même finalité, pourquoi pas, sachant qu'après on aura éventuellement l'hydrogène qui viendra nous donner un coup de main sur le moteur électrique, mais donnons un peu de temps pour respecter un peu l'ensemble de l'écosystème et de l'écoute de ceux qui utilisent un peu ce produit automobile, quoi. C'est ça le vrai sujet d'aujourd'hui.
Alors, on a un commentaire sur LinkedIn de Frédéric Bourchex qui dit que le Français moyen roulera en Dacia, et c'est déjà le cas avec la Sandero, et ou sous pavillon chinois pour l'électrique, et ou dans un véhicule intermédiaire.
Oui, bien sûr. Là, on n'a pas parlé des conséquences, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que sur la partie thermique, l'Europe, la France notamment, avait pris un pas et avait fortement marqué l'histoire du monde automobile. Il faut reconnaître que la Chine avait raté cette partie thermique. Sur la partie électrique, on peut dire que c'est la revanche. C'est une revanche des Chinois qui, parfaitement, ont suffisamment d'avance et qui sont en train de le démontrer par A plus B. Notre Dacia électrique qui est fabriquée en Chine, effectivement, va le montrer clairement. La valeur ajoutée sur une voiture électrique et la batterie, aujourd'hui, profite à l'industrie chinoise. Donc, on voit bien qu'il y a un retour très fort par rapport à ça, et qui est peut-être encore une des réflexions que Carlos Tavares avait, ou que nous avions de notre côté. Là, il y a un vrai sujet. On ne peut pas non plus accepter, si vous voulez, parce que sous prétexte, c'est un volet que j'aurais voulu dire en quelques instants, on ne peut pas accepter qu'à un moment donné, sous peine de réchauffement climatique, pour lequel je ne connais pas ni un concessionnaire ni quelqu'un du monde de l'aval de la filière automobile qui n'est pas d'accord. On est tous évidemment des gens qui pensent limiter le réchauffement. Mais il faut savoir donner autant et pas créer de plus de mal qu'il n'en faut. Aujourd'hui, quand vous avez en France une production de 0,9% des productions de CO2 dans le monde, et que vous allez faire un effort colossal, vous n'arriverez jamais peut-être qu'à 0,7 ou 0,6%. Ça ne changera pas grand-chose au réchauffement climatique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire pour remontrer l'exemple, mais je dis qu'il faut le savoir quand même en tête. Et quand vous avez des voitures chinoises, ou que vous avez des structurations chinoises qui fabriquent des batteries ou des véhicules eux-mêmes, et de plus en plus avec des usines à charbon, des usines à gaz qui aujourd'hui se développent, et pour nous envoyer ces types de voitures à des prix extrêmement bas, il faut comprendre aussi pourquoi les Chinois ont des prix extrêmement bas. Leur marché aujourd'hui, c'est, je crois, 100 personnes ou 150 personnes sur 1000 qui ont un véhicule, contre 700 aux États-Unis et 500 ou 600 chez nous en France et en Europe. Imaginez que demain, ces gens-là passent à 700 voitures, 800 voitures, mais ils ont une croissance colossale sur 1 milliard d'habitants. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir amortir considérablement l'ensemble de leurs frais engagés sur ce type de véhicule et proposer des prix extrêmement bas lorsque ce véhicule nous sera proposé en Europe. Il est grand temps que l'Europe, et j'espère que Bruxelles va se... On sent quand même aujourd'hui un certain nombre d'actions qui vont dans ce sens. Donc, j'espère que Bruxelles va regarder un peu ce qui se passe à l'entrée de nos frontières, notamment sur un bilan carbone. Ce n'est pas possible autrement. Sinon, une nouvelle fois, on ne pourra pas reprocher à nos amis automobilistes en France d'acheter des voitures pour lesquelles, effectivement, ils auront les moyens d'y accéder.
Bien sûr.
Et des voitures, d'ailleurs, que je reconnais, qui sont aussi les voitures qui sont maintenant de qualité tout à fait correcte. Et le vrai sujet, il n'est pas là. Il n'est pas... Et on ne pourra pas non plus reprocher à nos industriels de pouvoir suivre le prix proposé par cette concurrence qui, globalement, n'est pas du tout dans le même aspect. Alors, après l'électrique, il y aura peut-être une évolution. Moi, c'est ce que je pense, c'est ce que j'espère. Je ne suis pas le seul. Une exposition avec l'hydrogène. Si demain, la batterie est remplacée par l'hydrogène sous la forme on va quand même, la pile à combustible associée au moteur électrique va apporter des choses importantes. Et ça peut apporter une solution. Mais malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, c'est un problème de prix et de coût qui fait qu'aujourd'hui, fabriquer de l'hydrogène propre est très cher. Donc, on voit devant nous qu'on a cette situation en permanence qui est quand même pas si simple que cela. Et je dis toujours, il n'y a que le temps au temps, il n'y a que le raisonnement, il y a... Le respect de l'automobiliste, le respect des normes sociales à des gens qui ont besoin d'une voiture, pour ne pas les culpabiliser d'une manière radicale et trop rapide, qui sera, à mon avis, fait si ça posera un certain nombre de problèmes. Ça, c'est clair. J'ai encore eu l'occasion de l'exprimer hier, dans les bureaux du Premier ministre. Soyons prudents.
Alors, si effectivement cette transformation de l'industrie et la crise des semi-conducteurs ne semblent pas poser trop de soucis aux constructeurs automobiles qui ont fait quand même des résultats records, hein, c'est dans ce contexte, c'est quand même assez étonnant, avec ce repositionnement haut de gamme, notamment Rolls-Royce a eu un record historique de ses résultats en 117 ans d'histoire, c'est la première fois qu'ils font autant de bénéfices. On peut pas dire que ce soit la même chose pour les services de l'automobile et les fournisseurs. Alors justement, on a une remarque d'Olivier Debras qui dit que l'aftermarket va devoir anticiper, sinon l'avenir sera difficile pour la chaîne de distribution des pièces de rechange. Un vrai dilemme pour nos stocks.
Oui, bien sûr. Alors là, pour deux grandes raisons. La première, c'est que l'ensemble de la distribution d'un pied détaché va évoluer énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les constructeurs eux-mêmes et d'autres intervenants vont prendre partie du marché. Inévitablement, ce marché-là, qui est un marché qui était relativement organisé et structuré jusqu'ici, est un marché qui va être totalement déstabilisé. C'est un marché qui risque d'avoir un effet quantitatif qui soit un peu moindre et qui soit partagé de manière importante. Donc, il faut qu'un certain nombre de distributions telles qu'elles existent aujourd'hui dans nos métiers auront de sérieuses difficultés dans les années à venir. Ça, c'est inévitable. La deuxième chose sur la partie de l'aftermarket, comme vous soulignez la question de c'est que, inévitablement, si on allait trop vite dans une transformation du parc automobile, on aurait des difficultés. Il est clair qu'on sait très bien que si on comparait un parc uniquement électrique par rapport à un parc thermique, c'est environ 40% à peu près d'activité, de résultats en moins. Bon, la bonne nouvelle, soyons quand même prudents, c'est que ce parc roulant tel qu'il est là, Aujourd'hui, avec tout ce qu'on dit, il y a 1% de voitures électriques. Donc, on n'est pas non plus… ça avance. Mais il y a encore quelques années devant nous, on aura aussi du thermique. Et puis, je ne suis pas certain que globalement, le moteur thermique soit définitivement arrêté en 2035. Je suis même certain du contraire. Donc, je pense qu'il y aura encore… Pourquoi ? Parce qu'inévitablement, il y a des tas de pays dans le monde qui ne passeront jamais à l'électricité. Vous savez qu'il y a des pays qui n'ont pas encore l'électrique pour éclairer la maison. Ce n'est pas ces gens-là qui auront l'électrique pour avoir une voiture. Donc, soyons très sérieux. On aura besoin encore très longtemps de produits de moteurs thermiques et de constructeurs. Et deuxièmement, on aura peut-être aussi l'adaptation de manière un peu plus intelligente de garder du moteur thermique avec d'autres sources d'énergie que les énergies fossiles. On est en train d'en parler. Il y a des possibilités. On a besoin peut-être demain du moteur thermique d'une manière intelligente pour garder des hybrides rechargeables. Il y a des choses qu'on peut voir un petit peu. Donc, s'il n'y a pas définitivement cette fin du moteur thermique telle que moi, je pense qu'elle existera encore assez longtemps, voilà, on est moins inquiet que si on passait d'une génération à seul coup à moteur électrique, ça c'est très clair.
Alors qu'on garde le moteur thermique ou pas, il n'en demeure pas moins que les technologies évoluent très très vite et que la filière doit se moderniser. Alors là, il y a un véritable souci de moyens. C'est d'ailleurs, je pense, pour cela que vous étiez hier soir à Matignon pour plaider la cause des services de l'automobile. Est-ce que vous avez eu une oreille favorable du Premier ministre et de Bruno Le Maire lorsque vous avez demandé des aides pour moderniser les services de l'automobile ?
Je pense qu'il faut repréciser deux choses sur le sujet. Le premier, c'est d'abord reconnaître que nous faisons partie maintenant, et ça a été une première grande évolution. Nous faisons partie maintenant du comité stratégique de filière automobile, dans lequel nous participons avec la PFA, c'est-à-dire nos amis constructeurs et équipementiers. On participe à des travaux de réflexion à Bercy, sous l'égide du ministre de l'Industrie, sur l'évolution de l'automobile. Ça, c'est quand même déjà nouveau, il faut le signaler. Le deuxième point qui est quand même aussi assez favorable pour nous, c'est que on participe pratiquement maintenant à toutes les réflexions, à tous les grands organismes qui parlent voiture, mobilité, parce que nous avons su prendre notre place à travers notamment le Mouvlab, à travers Station F, nous avons su prendre nos places avec nos différents métiers. Donc aujourd'hui, on est un interlocuteur qui participe, est actif. Le troisième point qui nous pose ce sujet, celui dont vous venez de me proposer, c'est effectivement, on a besoin de faire en sorte que l'activité de la filière aval dans toute son étendue, et notamment très particulièrement pour ces très petites entreprises et ces PME, c'est effectivement d'avoir un soutien un peu plus fort de la part de Bercy. Pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas mécontent du tout d'entendre que les constructeurs bénéficient de fois de primes et d'aides extrêmement importants, comme je suis très content d'avoir entendu que les équipementiers bénéficieront d'un certain nombre d'aides importantes. Je m'en réjouis. Je dis simplement, à chaque fois qu'on arrive à ce stade-là, ben on n'est pas là, nous. C'est bizarre, on n'est plus là. C'est-à-dire que, alors que les transformations de nos ateliers, les transformations de l'ensemble de nos métiers, je citerai par exemple la déconstruction automobile, pour laquelle nous avons beaucoup d'entreprises, je citerai les carrossiers, je citerai qui doivent faire des investissements dans le domaine environnemental, les stations-service, imaginez les stations-service de demain, sans produits fossiles. L'ensemble, tous ces éléments-là, si vous voulez, aujourd'hui, alors on nous écoute, mais on ne nous répond pas positivement. Alors qu'en définitive, ce que je dis, ce que nous disons clairement, c'est que quand vous avez un dossier dans lequel vous êtes susceptible de répondre à des besoins d'une aide, d'un investissement, d'une aide publique, les dossiers sont foncièrement très compliqués. J'ai eu l'occasion d'en remplir quelques-uns. Une entreprise qui a une direction des ressources humaines, qui a une direction de la logistique, qui a des responsables économiques dans une grande structure, est à même de pouvoir répondre à ce genre de situation. Une TPE, PME qui, globalement, avec un artisan, un chef d'entreprise, quelques salariés, quelques commissaires, se trouve tout de suite noyée par rapport à l'ampleur. Donc, ce qu'on propose simplement au CNPA, c'est déjà, si c'était possible, de pouvoir être un peu cet intermédiaire, c'est ce faiseur de dossiers, cette mise en place de structuration qui permette effectivement à certains de pouvoir proposer un certain nombre de dossiers et d'être entendu par rapport à ça et de construire. Alors voilà, vous imaginez par exemple nos amis de la PFA, construction, les constructeurs automobiles bénéficient d'une enveloppe, par exemple, pour justement assurer ce genre de rouage entre les différents métiers, pour assurer éventuellement des études, des enquêtes permettant de redéfinir quel est l'avenir. À chaque fois qu'on l'a fait dans le cadre du CNPA, que nous intervenons sur ce sujet, c'est nous-mêmes par nos propres fonds, avec les cotisations de nos adhérents uniquement, qui permettent effectivement d'aller chercher quelles sont nos situations, nos projets de demain. On n'est jamais aidé. Pourquoi à ce niveau-là, on n'est pas entendu. Alors, c'est ça hier. Ma question, c'était, avance, on a posé les questions. Alors, je vais vous répondre, clairement, on est entendu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il y aura une réflexion dans ce sens. Et je vais même vous dire une confidence. Je crois, j'étais hier moi-même avec mon directeur Xavier Orand sur le sujet. On a l'impression, effectivement, qu'il y a quelques écoutes qui peuvent être là. Je dirais aussi, et ce serait pas sérieux de ma part de l'oublier, c'est qu'on a déjà eu une première réponse, notamment de Bercy et de l'État, et du Premier ministre, parce que c'est venu du Premier ministre, sur notre possibilité d'obtenir 30 millions d'euros pour pouvoir mettre en place des bornes de recharge dans l'ensemble de nos entreprises et services de l'automobile. Ça, c'est une première réponse. Au-delà du fait dont on peut effectivement voir comment on va l'utiliser, on a beaucoup d'idées dessus, c'est quand même pour nous la première marche, le premier cran qui nous montre qu'on a des retours qui commencent à être positifs. Voilà, c'est pour ça que je suis optimiste, mais il faut relancer. Vous savez, on ne dit peut-être pas assez qu'on est 500 000 salariés et 130 000
emplois.
Et non délocalisables. Alors, ce que j'ai cru entendre, qui m'a quelquefois, mais je pense que je n'ai pas bien entendu, mais ça m'avait un petit peu énervé, c'est d'entendre que si on n'est pas délocalisable et qu'on reste sur place, bon, on n'est pas des gens dangereux, quoi. Mais ça je ne suis pas trouvé ça très, très, très sympa. Je préfère penser qu'il faut mieux aider les gens qui payent leurs impôts, leur entreprise, leur système, qui ont des difficultés à s'adapter. C'est peut-être ceux-là qu'il faut donner un petit coup de main, plutôt à ceux à qui on donne ce qu'il faut pour pouvoir continuer et survivre, mais qui délocalisent. Bon, voilà, après, c'est une question de réflexion. Mais voilà, c'est un peu tout ça qu'on est en train de poser actuellement. Et je peux vous dire qu'on a ressenti hier soir un niveau d'écoute qui est bien supérieur à ce qu'on pouvait penser il y a quelques mois.
Bon, parce qu'il est évident que la transformation de l'automobile, qui est inéluctable, va de pair avec la transformation de tous ces services, puisqu'il faut tout moderniser, mais également avec la formation. Alors, la formation, c'est quand même un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez été président du GARAC, hein, l'École nationale des professions de l'automobile. Vous avez été président de l'ANFA, l'Association nationale pour la formation automobile. La formation, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour l'avenir de l'automobile.
Oui, ça a toujours été un enjeu important pour notre branche, hein, pour nos métiers. On a toujours été caractérisé par ce genre de choses. Et je veux dire même que la notion effectivement de l'apprentissage au sens important, cet apprentissage caractérise très fortement nos métiers et la façon dont les jeunes rentrent dans nos entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, ça a toujours été une force importante. Nous sommes aujourd'hui à développer, bien sûr, les systèmes. Nous avons amélioré, parce que par nécessité, nous avons montré sur des diplômes un peu plus importants. Je me souviens, moi, il y a encore une vingtaine d'années, quand on a créé les BTS. Aujourd'hui, on a créé vraiment des licences. On a même créé un diplôme d'ingénieur. Donc, on voit qu'on essaye de lancer. Et on le fait toujours, quand même, très souvent par apprentissage. Donc, on est quand même dedans. Ceci étant, tous nos métiers vont être impactés. De la formation de vendeur, de la formation d'un métier aussi simple que de metteur en main, livreur d'un véhicule, c'est extrêmement compliqué. Sans parler de tous les métiers de l'atelier, tous les métiers de la carrosserie, avec les évolutions que l'on constate aujourd'hui sur les châssis inox. Enfin, on voit tellement de choses qui sont en train de sur les châssis alu, pardon, on voit tellement de choses qui sont en train de bouger, qu'inévitablement, c'est beaucoup, beaucoup de besoins financiers d'investissement, et que si on ne le fait pas, malheureusement, un grand nombre de petites entreprises, petites et moyennes, ne pourront pas suivre. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc là, dans nos propositions, d'ailleurs, dans nos demandes, nous avons clairement exprimé notre inquiétude par rapport aux besoins importants de la filière aval sur les besoins en financement des formations de demain qui vont s'accélérer et dont nous aurons de plus en plus besoin. C'est un dossier qui a été aussi pris en compte, je crois, qui a bien été compris. Parce qu'on voit bien que tout va extrêmement, extrêmement vite. Et là il y a des synergies qui sont possibles aussi avec l'industrie. Il y a des systèmes de PEA dans lesquels on va travailler ensemble. Mais nos métiers ont réellement un besoin important de formation. Deuxième point dont on a aussi extrêmement besoin, qu'on a peut-être oublié tout à l'heure, et c'est peut-être moi qui l'ai oublié, c'est nos entreprises. Les plus petites d'entre elles sont aussi des gens qui ont besoin d'une initiative sur la digitalisation, sur l'innovation, sur tout le digital. Et ça, c'est un sujet aujourd'hui.
On s'en est rendu compte pendant le confinement, la vente a totalement changé de visage.
Tout à fait. Vous imaginez bien que les grandes structures, les grosses structures ont une capacité à la fois en forces humaines, en forces financières, pour pouvoir le faire. Ce qui n'est pas le cas toujours dans les plus petites entreprises d'entre nous, et qui, si demain, n'accèdent pas à ce genre de système. Voilà encore un endroit que nous avons proposé, nous l'avons qualifié sous le nom de la modernisation de l'ensemble de nos petites et moyennes entreprises. C'est un sujet sur lequel cette modernisation, quand on parle au niveau de l'industrie, et on parle des petits, des équipementiers de rang 2, rang 3, ça paraît évident qu'il faut qu'ils le fassent. Mais dès qu'on apparaît chez nous, ça paraît évident qu'il faut qu'ils le fassent. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, c'est évident, mais on nous laisse un petit peu dans l'expectative. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Et j'insiste fortement sur le fait que on sent qu'on est entendu, mais il faut vraiment que ça puisse aboutir pour l'ensemble de tous nos métiers.
Alors, sur LinkedIn, on a Sylvain qui dit « Développons l'alternance, c'est la clé pour nos organisations. » Alors, il faut quand même rappeler que la filière embauche 15 000 alternants par an.
Oui, bien sûr, l'alternance est une des forces de notre branche professionnelle. Elle est au cœur même de la réflexion qu'on a avec la NFA quand on parle de la formation initiale et voire de la formation continue. Sur la formation initiale, d'ailleurs, le côté paritarisme que nous vivons ensemble, c'est-à-dire avec les représentants des salariés, fonctionne extrêmement bien. On a bien compris que là, on avait ensemble à travailler sur le sujet. Et vous savez, c'est les plus petites de nos entreprises, il y a un certain temps, prenaient par habitude un alternant dès le départ pour une formation. Aujourd'hui, c'est plus un vrai problème qu'on en a, plus près, je dirais presque un problème de recrutement. On n'est pas les seuls, beaucoup, non ? C'est presque plus un problème de recrutement sur lequel il faut qu'on se penche avec la NFA, avec nos partenaires, je vais dire, du paritarisme. Mais c'est un vrai sujet. Je pense que pour la formation et la mise en place, on a les structures et les éléments qui vont. Nos CFA, nos 42 CFA pilotes au niveau national, sont des CFA qui fonctionnent bien, dont les professionnels assurent, si vous voulez, ce maintien et assurent cette alternance. Et il faut absolument que ça puisse continuer. Je ne suis pas inquiet dessus. Je suis beaucoup plus inquiet aujourd'hui sur la notion du recrutement. Et là, il faut qu'on aille chercher. On est des gens qui savent former dans les conditions aujourd'hui. On est des gens qui auront besoin d'aide financière importante pour former l'ensemble de tous nos métiers de demain. Mais on est aussi des gens, un peu comme beaucoup d'autres branches, notre métier, on a besoin aujourd'hui de se pencher fortement sur le recrutement. On a un vrai sujet.
Alors, en conclusion, Francis, comment voyez-vous l'avenir de l'automobile ? On ne va pas parler de motorisation, on a bien compris que, et j'espère que vous avez raison, qu'on gardera le moteur thermique, mais on va dire à l'horizon 2035-2040, est-ce que vous pensez qu'on ne sera plus propriétaire de sa voiture, que la voiture populaire aura disparu, et que, en fait, les seules personnes qui posséderont une voiture, ce seront des personnes avec des moyens assez importants, et ce sera un véhicule de luxe ?
Ce que je pense, c'est qu'en ce qui concerne le mode de financement du véhicule, à mon avis, on a franchi un palier sur le problème de la location. Location avec option d'achat ou location longue durée. Je crois que ça a été, rappelez-vous, les débuts des années de ce nouveau siècle. Moi, je participais avec un constructeur qui, à l'époque, vendait déjà de la LOA et effectivement qui a développé très fortement. Ça a été quelque chose de fort qui a déjà considérablement animé le marché. Mais c'était aussi une possibilité de garder, de fidéliser de la clientèle à travers le renouvellement de ces locations avec option d'achat. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très fréquent, et notamment renforcé par la location longue durée à particulier, telle que l'on voit. Donc, on sait qu'aujourd'hui, entre 60 et 70% des véhicules, neufs risquent d'être donnés accès à une population de ce type. À mon avis, on ne reviendra pas en arrière. Mais pour moi, ce n'est pas pour autant que définitivement, pour l'acheteur d'une automobile, que le fait de la louer ne fait pas en sorte qu'il soit quand même fier de sa voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas encore le frigo, c'est pas encore l'outil de la maison. Je n'ai rien contre le frigo d'ailleurs, hein. Mais je veux dire, ça fait pas partie encore des choses qui sont. Voilà, il y a cet attachement. C'est plutôt, à mon avis, ça se fait dans ce sens parce que financièrement parlant, il y a une capacité à pouvoir faire, à pouvoir aller vers ce type de produit qu'effectivement l'achat du neuf seul, tel qu'à crédit classique, ne l'aura peut-être plus permis. Ça, je le crois. Par contre, je reste persuadé que la voiture restera dans les années à venir un besoin essentiel pour les mobilités. Et on vendra peut-être plus de la voiture, on vendra de la mobilité. Je veux dire, le CNPA l'a bien senti. Tous nos métiers aujourd'hui sont des métiers tournés vers la mobilité. Je le disais tout à l'heure pour nos actions au niveau de Station F ou autre. Et je pense que dans quelques jours, j'aurai sûrement le plaisir, si mon Assemblée Générale me le permet, d'annoncer une évolution du nom du CNPA qui va effectivement dans ce sens. Troisièmement, sur est-ce que la voiture existera encore ? Est-ce qu'il y aura encore des voitures que pour les gens qui seront riches ? Je ne crois pas. Je crois qu'il y aura... On aura, parce que l'effet de l'économie de marché telle qu'elle est une économie qui ne fonctionne que si elle est à base de comparaison et de concurrence. Il n'y a pas d'économie de marché sans concurrence. Donc, inévitablement, il y aura cette concurrence qui fera que le marché, s'il se situe à des niveaux beaucoup plus bas et potentiellement, il reviendra, j'en suis convaincu. Maintenant, il y a une part, et que je ne la maîtrise pas du tout, c'est la part des mobilités beaucoup plus douces que les Français, notamment les plus jeunes générations, il faut le reconnaître, n'ont pas cette même vision que moi je peux exprimer là, je peux tout à fait l'entendre, et la part des économies beaucoup plus douces, des mobilités beaucoup plus douces, quelle part prendra-t-elle ? Ça, je ne le sais pas. Je pense que dans les villes, dans les métropoles, il y aura une part suffisamment importante. Je la vois un peu moins bien comme tout le monde dans toutes les grandes, dans les zones de province, mais il y a toute une évolution là des mobilités. À mon avis, un peu cette mobilité qui fait qu'on n'ira pas d'un point A à un point B uniquement en voiture, on peut aller d'un point A à un point B uniquement avec différents types de mobilité, ce qui n'est pas impossible, y compris une partie des transports en commun. Je pense qu'il y a ce genre de situation. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des déplacements qu'on ne fera peut-être plus en voiture. Mais il y a des déplacements qu'on ne pourra faire toujours qu'en voiture. Donc, je reste assez persuadé que cette voiture-là restera. Alors maintenant, est-ce qu'il y aura que des voitures pour les riches ? Non, je n'y crois pas. Je crois beaucoup à la vertu de la concurrence, je crois beaucoup à la vertu des choses. Et puis, vous savez, il y a cette évolution de la voiture en elle-même reviendra sur le coût des motorisations en bon an finiront par baisser. C'est une évidence. Donc, alors ça prendra le temps. C'est pas demain, c'est pour 2023. Mais globalement, on peut espérer dans les années à venir d'avoir une stabilisation d'un marché qui correspond aux vrais besoins des utilisateurs. Je suis sûr que la voiture prendra encore largement sa part.
Merci beaucoup, Francis. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous vendredi avec Karine Bonnet, directrice générale de DECRA, pour parler de la mobilité des seniors. Merci et bonne journée.